Vous écoutez France Culture.
Et à 11h, c'est Question d'époque proposée par Caroline Brouet. Bonjour à tous. International en ce jeudi 5 février 2009 avec vous, Madeleine Moukamabano. Bonjour.
Bonjour Caroline, bonjour à tous.
Au sommaire de l'émission ce matin, à midi moins 5, vous retrouverez Philippe Thureau d'Angin pour sa chronique hebdomadaire. Philippe qui parlera ce matin des élections israéliennes prévues le 10 février prochain. Et tout de suite, le dossier, Madeleine, le dossier sur l'Iran, 30 ans après la révolution islamique.
Oui, comme vous le savez, Caroline, vous avez dû le constater, mis à part le volet des droits de l'homme, l'actualité iranienne, y compris dans le cadre de notre émission, est souvent abordée à travers le prisme des questions géopolitiques, tensions autour de son programme nucléaire ou ses menaces supposées sur les équilibres politiques et la stabilité des pays arabes du Proche-Orient. Une fois n'est pas coutume, donc aujourd'hui nous mettrons l'accent sur la situation intérieure. Nous évoquerons notamment les mutations politiques et sociales que connaît le pays depuis le triomphe de la révolution, avec un éclairage particulier sur les relations et les contradictions entre les différents pôles du pouvoir. Et nous allons terminer par la stratégie iranienne en Asie centrale, en Asie du Sud et dans le Sud-Caucase, là aussi un voisinage souvent occulté par celui du Proche-Orient. J'ai rien contre le Proche-Orient.
Le dossier, c'est tout de suite. Quatre invités, Madeleine, autour de la table.
Oui, tout d'abord François Nicoulot, il est ancien ambassadeur de France en Iran de 2001 à 2005. En 2006, il a publié Le Turban et la Rose, journal inattendu d'un ambassadeur à Téhéran, à la découverte d'un autre Iran, et c'est aux éditions Ramsay. Ramin Kamran a été un proche collaborateur de Shapour Bakhtiar, ancien premier ministre iranien, assassiné à Paris en 1991. Exilé en France, Ramin Kamran est enseignant-chercheur à l'INALCO, auteur de nombreux ouvrages, dont Le 20e siècle iranien, Le jeu des quatre familles, publié en 2007 aux éditions Kimé. Jean-François Bayard, directeur de recherche au CNRS Sciences Po Série, il a publié de nombreux ouvrages, il travaille sur la sociologie historique de l'État, notamment en Turquie et en Iran. Dernier ouvrage, Le gouvernement du monde, aux éditions Fayard. Et enfin, Ramin Param, auteur de nombreux articles sur la question iranienne. Il signe avec Michel Taubman son premier ouvrage, L'histoire secrète de la révolution iranienne, à paraître le mois prochain aux éditions de Noël. Au début de la révolution islamique, il y a une messe basse, s'il vous plaît. Au début de la révolution islamique, personne n'aurait osé parier sur la pérennité de ce régime étrange qui venait de se mettre en place. Et malgré toutes les prévisions qui annonçaient sa chute imminente, ce régime a survécu à la terreur de ses débuts. On se souvient des assassinats, des persécutions, notamment de l'opposition de gauche. Il a survécu à la guerre avec l'Irak, il a survécu à la mort de son fondateur Khomeini, à la chute du mur de Berlin. Là aussi, on aurait pensé que ça pouvait amener des bouleversements à l'intérieur du système. Il a survécu à l'isolement, pour ne pas dire l'hostilité de la communauté internationale. Et il vient de fêter son 30e anniversaire en envoyant sur orbite un satellite de fabrication iranienne lancé à l'aide d'une fusée iranienne. C'est presque un pied de nez à toutes ces mesures qui ont été prises, à toutes ces sanctions. François Nicoulot, qu'est-ce qui peut expliquer la pérennité de ce régime, sa stabilité?
Ce régime est en effet assez résilient, là, comme on dit, pour utiliser un mot à la mode. On a prédit sa chute à de très nombreuses reprises. Au démarrage, ça a quand même très très mal démarré. Il y a eu une période d'anarchie absolument infâme, hein, où on a eu vraiment l'impression que tout allait vaciller et s'effondrer. Il y a peut-être, mais il y a de meilleurs spécialistes que moi le diront, il y a déjà un élément qui a contribué à sa survie, ça a été l'agression de Saddam Hussein. Parce qu'à ce moment-là, toute la population iranienne, les différentes fractions à l'intérieur et à l'extérieur du régime qui étaient séparées, tout le monde a fait bloc. Il y a eu un réflexe national, un réflexe patriote. Même les partisans du Shah sont montés au front, les pilotes de l'aviation du Shah sont allés combattre, etc. Et on dit que Khomeini aurait décrit cette agression comme une bénédiction, il aurait prononcé le mot, et de fait, ça a déjà été un premier élément.
La fibre nationaliste.
Absolument, car dans cette révolution religieuse, il y a aussi indéfectiblement lié une dimension nationale dont ils font toujours tenir compte dans l'histoire iranienne.
Oui, Ramin Kamran.
Je prendrai la suite de François Nicolas pour dire que c'est juste. Au fond, on pense beaucoup religion et peu politique. On a pensé peu politique et beaucoup religion depuis le début dans l'analyse de cette révolution et dans l'analyse des évolutions du régime qui en est sorti. Il ne faut pas oublier que le régime, oui, il y a eu de la religion, il y a eu du chiisme, il y a eu ceci, il y a eu cela. Mais
il y a eu Khomeini, un côté dogmatique quand
absolument,
même.
Absolument, qui est toujours là, idéologique, mais depuis le début, a marché avec des passions nationalistes. Depuis le début, je veux dire bien avant la prise de pouvoir de Khomeini, depuis son lancement dans la politique, ça a été contre les Américains, contre le statut, je dirais, privilégié, cédé aux conseillers américains qui étaient en Iran. Autrement dit, toujours le fibre nationaliste. Et dans la révolution, bien sûr, chiisme et tout, mais que les Américains sortent. Le chiisme est toujours là, oui, il a évolué, mais les Américains sont sortis pour ne plus revenir. Et ce qui est important, là aussi je prendrai la suite de M. Nicolas, c'est que tout ce qui touche à ce nationalisme renforce ce régime. Khomeini a dit que la guerre est une bénédiction. Il avait tout à fait raison. Ce fut une bénédiction pour son régime. Et Ahmadinejad a répété cela en disant...
La guerre est finie quand même depuis 1988. On a l'impression que le régime tient bien.
Tient bien, on pourrait avoir l'impression. Ça tient toujours, mais ça c'est toujours à la société civile. Et Ahmadinejad a dit, l'affaire atomique, c'est une bénédiction pour nous. Et il a raison. Ça touche le nationalisme et ça aide ses gens.
Jean-François Bayard.
Oui, moi je partage largement cette analyse. La guerre a eu un rôle majeur, mais enfin, la guerre, c'était effectivement il y a une vingtaine d'années. Elle s'est terminée en 1988 et depuis 20 ans, le régime se reproduit. Et il faut bien voir par ailleurs que la majorité des Iraniens n'ont pas connu la révolution de 1979 et n'ont pas véritablement connu la guerre ou alors en tant qu'enfants. Donc il y a d'autres ressorts de la stabilité du régime. Pour ma part, j'en vois deux. D'abord, ça n'est certes pas un régime démocratique, mais c'est un régime qui a des institutions représentatives, d'une certaine manière. Et donc, il y a un minimum de rétroaction entre la société et le système politique. Un système politique, par ailleurs, qui est extrêmement dispersé du point de vue de la prise de décision, ce qui lui assure à la fois une extraordinaire incapacité à décider, notamment dans le domaine économique, mais également une très grande capacité à absorber les chocs, les secousses ou les messages de la société. Donc, premièrement, des institutions qui sont véritablement représentatives, même si elles ne sont pas démocratiques. Elles ne sont pas démocratiques en ce sens que tout le monde n'a pas la liberté de candidature, hein, entre autres facteurs. Et puis deuxièmement...
Mais ce sont les religieux qui choisissent. En fait,
non, c'est plus compliqué que ça, parce que la dimension politique, je suis d'accord avec vous, la dimension politique du régime est absolument fondamentale. C'est un régime politique, ça n'est pas une théocratie. Deuxième élément, c'est l'autonomie de la société.
Par rapport à quoi, Jean-François Bayard?
Par rapport à l'État. C'est l'autonomie de la société. Incontestablement, la République islamique, dans certaines de ses dimensions, a eu des tentations totalitaires, mais elles ont été très rapidement bloquées. Elles ont notamment été bloquées par la montée en puissance politique dès le début des années 1980, de ceux que l'on appelle les conservateurs, et qui, ne serait-ce que pour des raisons religieuses, sont hostiles à l'intrusion du pouvoir, à l'intrusion de l'État, dans la sphère familiale et même dans la sphère religieuse. Et vous avez, par exemple, l'institution du clergé, qui ne se reconnaît pas complètement dans ce régime, qui est très largement autonome par rapport à lui, même si le régime est en partie tenu par des clercs politiques, mais l'immense majorité...
On va y revenir quand même, comme
bon,
ça.
Donc, autonomie de la société, par rapport à l'État, et cela assure, à mon avis, une certaine reproduction du système.
C'est-à-dire que les citoyens s'y retrouvent.
D'une certaine manière, en tout cas, il y a une relation extrêmement ambivalente entre la majorité des Iraniens et le régime. Les Iraniens peuvent critiquer les autorités, peuvent critiquer le régime, mais pas forcément le système et pas forcément la République. Et tout rêve de restauration monarchique, par exemple, est à mon avis voué à l'échec.
Ou d'une République laïque.
En tout cas, il y a sécularisation du régime et il faut remarquer qu'aujourd'hui, jamais la part des clercs dans les postes de responsabilité n'a été aussi faible. Et le régime de d'Ahmadinejad, enfin le pouvoir d'Ahmadinejad n'est pas un pouvoir clérical. Je crois qu'il y a un, je parle sous le contrôle de mes interlocuteurs, je crois qu'il y a un ministre clerc.
Oui, Ramin Param, c'est votre analyse aussi ?
Non, en tout cas, en partie, je serais obligé de désavouer une partie des arguments que je viens d'entendre. Mais pour revenir à votre question de base, première question, la pérennité de ce régime, sa stabilité tient en un seul mot, la barbarie, la violence brutale et ouverte. Et ce régime, les observateurs en matière de droits de l'homme qui suivent les affaires, et Dieu sait qu'aujourd'hui il y a une multitude de sources, contrairement à ce qui s'est passé sous l'ancien régime, où on a pu entendre des chiffres absolument extravagants. Et aujourd'hui, il y a plusieurs sources, et toutes ces sources s'accordent pour dire que ce régime est jalonné, son histoire, par 5 grands massacres. Le premier a eu lieu dès l'instauration du régime, c'était la monarchie. La monarchie était entièrement réprimée, violemment réprimée. Ensuite, la chaîne de commande des forces armées, ce qui a provoqué en partie la guerre avec l'Irak, suit les forces de gauche, la gauche islamiste, la gauche marxiste et islamo-marxiste, ont été violemment réprimées. Et suit ensuite.
Oui, c'est la fameuse période de terreur dont on
c'est
a
la fameuse
parlé,
période
oui,
de terreur, mais c'est très important.
Avec les assassinats,
mais
Mando, Dolérand.
Vous savez, oui. Gandhi a réussi sa marche pacifique parce qu'il avait en face de lui des gentlemen anglais, et pas Rafsanjani ou Khomeini. Vers la fin des années 80, vous avez la purge, liquidation des prisons iraniennes. C'est un crime passible d'être traduit devant une justice internationale comme crime contre l'humanité. Et ensuite, vous avez la violence envers les intellectuels iraniens en Iran et à l'extérieur. Donc la violence brutale et ouverte explique en grande partie la stabilité de ce régime. Deuxième élément, et ça il faudrait...
Donc ça aurait provoqué une telle peur qu'il n'y a plus de réaction au niveau
des... Absolument, c'est-à-dire là où il faut faire attention, c'est... Pas seulement la violence en tant que violence, mais la brutalité de cette violence. C'est-à-dire qu'il faut, par exemple, s'intéresser à la façon dont les intellectuels, dont les journalistes, les traducteurs iraniens ou autres ont été massacrés, pas seulement tués. C'est le même modèle que l'on retrouve en Iran dans ce qu'est l'islam politique et le projet de l'islam politique en Iran depuis Ahmad Khashoggi, ce libéral penseur iranien des années 80. Il est d'abord tué par balle, ensuite découpé au couteau. Et c'est une signature. C'est-à-dire, si vous parlez, c'est comme ça qu'on va faire. Et c'est une crassie, c'est une théocratie, ce n'est pas un régime politique. Les meilleurs éléments, les éléments les plus soi-disant réformateurs, soi-disant pragmatiques, soi-disant libérales de ce régime le disent eux-mêmes. M. Ebrahim Razdi l'a dit encore récemment. Pour nous, il n'y a aucune distinction entre politique et religion. C'est une théocratie. Ces fondements ont été établis dès la fin de la décennie 60 par M. Khomeini à Najaf, dans un livre qui s'appelle « L'État islamique ». Et on ne peut pas être plus catholique que le pape.
Alors, on reviendra à cet aspect religion, politique, mais François Nicolau a écouté les explications de Ramin Param. On les entend de temps en temps chez certains Iraniens qui disent « la répression a... » annihiler toute velléité de contestation. Oui, mais en même temps, on a affaire à une génération qui n'a même pas connu cette répression-là
non,
aujourd'hui.
C'est vrai. Et puis, il y a eu des périodes de terreur, là, c'est évident, un peu comme dans la Révolution française, mais comme dans toute révolution, les périodes de terreur, par définition, elles sont quand même relativement brèves. C'est des périodes paroxystiques. Ensuite, on entre dans un autre type de relation. Et pour caractériser les choses, moi, j'utiliserais plutôt le terme d'intimidation. C'est sûr que ce régime mène une politique d'intimidation à l'égard de de ses opposants, même s'il y a quelquefois des violences, il y en a eu en tous les cas dans des périodes relativement récentes. Mais il y a un autre élément qui, moi, j'ai découvert au bout de à peu près 2 ans de mon séjour en Iran, qui m'a beaucoup frappé, qui modifie totalement les rapports entre le pouvoir, entre l'État et la société par rapport à nos propres sociétés occidentales, et qui m'a frappé tout à coup comme une évidence, c'est que ce rapport est très différent de chez nous parce qu'en Iran, je vais faire un petit peu simple, caricaturé, mais les gens ne payent pas d'impôts. Et donc la relation des gens avec l'État, si vous voulez, est totalement inversée puisque c'est l'État qui distribue de l'argent au lieu d'en récolter. Dans nos sociétés occidentales, on paye des impôts, donc les gouvernants nous doivent quand même quelque chose. Ils doivent nous répondre, ils doivent rendre compte de leur action. Là, c'est tout à fait l'inverse, c'est un système de clientélisme. Et donc, petit à petit, tout cet argent du pétrole percole dans l'ensemble de la société.
Mais justement, ça fait partie des critiques faites à Ahmadinejad de trop distribuer, de ne pas investir, de ne pas développer. D'être rentré dans un système complètement clientéliste.
C'est vrai qu'il a dilapidé une partie de la rente pétrolière inespérée qu'a apporté la hausse des coûts du pétrole. Maintenant, on va rentrer dans des périodes plus difficiles. Mais j'en profite pour dire qu'on se dit, oui, l'Iran va être plus malléable maintenant qu'il a moins d'argent avec le pétrole. Je me rappelle quand même, c'est pas le même Iran sans doute, mais précisément toute la guerre avec l'Irak s'est conduite avec un pétrole qui était à $8 le baril. Hein, et ce pays a résisté. Il a résisté donc à des périodes un peu de vache maigre. Et il est possible qu'il arrive à résister aussi maintenant à cette nouvelle période de vache relativement maigre, un peu moins grasse.
Oui, alors Ramin Kamran, avant d'avancer, on va essayer d'éclaircir un peu la question soulevée par Jean-François Bayard, de dire qu'on n'est pas dans une théocratie, ce que tout le monde croit en tout cas. Sur papier, c'est le guide de la Révolution qui détient le plus de pouvoir par rapport au président de la République.
Naturellement. Regardez, en ce qui concerne la théocratie, c'est la dénomination officielle de ce régime, le gouvernement de Dieu sur Terre. Mais est-ce que c'est un régime si original? Je ne pense absolument pas. Ça a été dès sa naissance, un type de révolution. Enfin, révolution, je ne dirais pas. Regardez, la révolution, si on le juge par son résultat. Ça a donné un régime fasciste, type totalitaire, réactionnaire. C'est très simple. Et ça ne pouvait pas donner autre chose. On est dans la modernité, on ne peut pas faire de miracle en la matière. Un régime politique inédit que personne n'a vu. Hein. Et ce régime totalitaire, qui a eu une faiblesse extrêmement importante dès le début, ils n'ont pas eu de parti unique, ils l'ont eu pendant 1 ou 2 ans, ils ont dû le laisser tomber, est entré très vite, surtout après la fin de la guerre Iran-Irak, en phase de décomposition, et maintenant en décomposition avancée. Et comment on nous le présente ? Y compris M. Bayard qui est à mon côté, on dit qu'il y a une représentation qui n'est pas démocratique. Une représentativité qui n'est pas démocratique, ça peut être la représentativité de la classe par Staline, la représentativité de la race par Hitler, ou, pour être plus simple, une certaine représentativité, disons, par l'Église. Non. Tout ce qui est intéressant, c'est la démocratie dans cette affaire. Sinon, on ne peut pas parler de la représentativité, si ce n'est du côté d'idéologie. Mais, autre chose aussi que je voudrais dire, la liberté de critique. Ça n'existe pas, les gens le payent très 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 cher. M. Parent m'a eu raison de le souligner quand même. On ne peut pas dire qu'il y a une liberté de critique. Et à la fin, je voudrais poser une question personnelle à M. Bayard, dont je voudrais... J'attendais depuis un certain temps. Regardez, plusieurs fois vous avez écrit...
Vous avez
écrit,
l'occasion.
Absolument. Plusieurs fois vous avez écrit que Khomeini avait traité ses ennemis avec Javon Mardi, magnanimité. Est-ce que vous pensez que quelqu'un qui met à mort des gens par milliers les traite par magnanimité, en toute franchise?
J'aimerais que vous me citiez les travaux et les pages auxquels vous faites référence, parce que je n'ai jamais écrit ça.
Je vous apporterai, j'enverrai la prochaine, la photocopie à l'administration.
Mais je ne pense pas que nous soyons là pour faire une discussion personnelle, donc revenons au sujet.
Ben voilà.
Vous répondez au sujet, donc sur cette question de représentativité, parce que c'est la question qui se pose. Pas de liberté de critique, pas de parti politique en dehors de la sphère qui est définie par le dogme. Où se retrouve la représentativité dans ce cadre-là?
D'abord, mon propos, il me semble que je l'ai dit assez clairement, n'est pas de nier la part policière ou la part répressive du régime. Ça n'est pas un régime démocratique. À bien des égards, on peut parler d'état policier en ce sens que les services de sécurité, par exemple, ont un rôle extrêmement important dans la prise de décision et, je dirais assez cyniquement, dans la régulation politique. Mais cette part policière, au fond, elle est surtout dirigée contre la classe politique elle-même et elle sert d'ailleurs surtout à réguler les le jeu interne des factions. Le hasard de ma carrière...
Vous diriez comme un journaliste iranien qui nous disait aujourd'hui, il y a tout un jeu politique qui se passe au sein de la classe politique, mais qui ne regarde absolument pas la population iranienne.
Oui, d'une certaine manière, c'est assez vrai.
Il y a
incontestablement, par exemple, des liquidations d'opposants, des liquidations de dirigeants politiques, mais la violence est très largement une violence interne au régime et qui concerne finalement assez peu l'ensemble de la population, qui parle volontiers, je crois, de guerre de bijoutiers, des choses effectivement qu'on ne comprend pas très bien dans les allées du bazar, mais bon. Cela étant, ma carrière a voulu, malheureusement, que je fréquente un certain nombre de régimes autoritaires. Je dois dire que dans la société iranienne, le contrôle de la société n'a rien à voir avec celui que l'on peut observer, par exemple, en Tunisie. L'Iran d'Ahmadinejad ou même de Roménie, ce n'est pas l'Irak de Saddam Hussein. Donc je crois qu'il faut admettre qu'il peut y avoir, par exemple, des formes républicaines qui ne sont pas des formes démocratiques, par exemple, de démocratie de masse au sens où on l'entend dans le contexte libéral aujourd'hui, mais que nous, pour notre part, nous avons bien connu en France, par exemple, au début du 19e siècle, la monarchie de Juillet, ou même certains épisodes de la République issue de la Révolution française, reposaient sur le sens. C'était des républiques ou des régimes censitaires, où tout le monde ne votait pas. Et il peut y avoir des républiques qui sont non démocratiques. On ne va pas faire un cours d'histoire, mais c'est quelque chose d'assez banal. Bon. Par ailleurs, régime réactionnaire, moi je veux bien. Mais encore une fois, ce régime... par exemple, donner naissance à un système universitaire qui est capable de produire des ingénieurs qui, par exemple, ont l'air assez actifs dans le domaine nucléaire et dans le domaine balistique. Ce régime, tout islamique qu'il soit, a en tout cas assumé une transition démographique tout à fait spectaculaire, avec un usage massif de la contraception par les femmes. Et on pourrait multiplier les exemples de ce genre. Mon propos n'est naturellement, je ne suis pas iranien, ni d'approuver, ni de critiquer ce régime. Je constate simplement que même ses opposants devraient le prendre pour ce qu'il est. Et je crois qu'il y a énormément de contresens qui sont faits sur la nature et le dynamisme de cette société politique qui se reproduit, qu'on le veuille ou non, depuis une trentaine d'années.
Oui, Ramin.
Il y a beaucoup de choses qui se disent, donc je vais essayer d'être assez bref sur chaque point. D'abord, il y a une séparation qu'il faut faire entre société, et ça c'est une confusion qui est intentionnellement maintenue depuis des années. Une distinction entre société iranienne et l'État théocratique iranien. La société iranienne n'a rien à voir avec l'État
théocratique. Je suis heureux que vous reconnaissiez l'autonomie de la société iranienne par rapport à l'État.
Oui, cette société, heureusement, nous ne sommes pas en Tunisie, sommes pas en Corée du Nord.
Mais monsieur Param, pour les non-iraniens, cette société justement qui est en dehors de cette théocratie, comme vous le dites, on se dit comment ça se fait, elle ne se manifeste pas, elle ne proteste pas, elle a l'air quand même d'accepter son sort.
Oui, c'est ça, c'est assez vous allez en venir. C'est-à-dire il y a quand même un point qu'il faut souligner pour en arriver à ça. C'est-à-dire que M. Khomeini a hérité en Iran, contrairement à ce qui peut se passer dans d'autres pays de la région, a hérité en Iran. Malgré tout ce que l'on peut dire sur l'ancien régime, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce qu'on peut dire sur l'ancien régime. A hérité en Iran d'une société largement moderne, avec tous ses manquements, mais une société qui était établie. Il y avait une classe moyenne, il y avait une université dont les diplômes étaient reconnus partout, contrairement à aujourd'hui. Aujourd'hui, les diplômes que vous mentionnez des universités dites islamiques, azad, libres, soi-disant, ne sont reconnus même pas en Iran. Et le diplôme, la licence de philosophie de M. Khatami est mise en doute par les propres membres du régime. Et encore moins à l'extérieur. Donc c'est de la vente de diplômes, M. Bayard. C'est pas une éducation supérieure. Donc Khomeini a hérité d'une société qui était déjà largement évoluée. L'Iran, en 1906, se dote d'une constitution, ce que vous n'avez ni en Turquie ni en Russie. Donc ce n'est pas une société où l'on peut comparer comme ça avec d'autres pays de la région. Maintenant, pour revenir à la dernière question que vous avez posée, c'est pourquoi cette société qui existe depuis si longtemps et sur laquelle trois générations successives ont travaillé depuis 1906 ne se soulève pas. C'est une vaste question, c'est complexe, mais je vais résumer ça à un ou deux éléments. D'abord, il y a ce qu'on appelle en Iran, et ce n'est pas une tradition du nouveau régime, ça existait également sous l'ancien régime, mais sous le nouveau régime, c'est devenu un art, une science. Ceci s'appelle la corruption des élites. Ça a été parfaitement établi, étudié et écrit par Marvin Zonis de l'Université de Chicago. La corruption des élites sous le nouveau régime atteint des sommets. Et cette corruption des élites empêche la mise en place d'une plateforme démocratique, parce que sans coopération des élites, c'est difficile de mettre en place une transition démocratique en Iran, ça freine. Le plus grand frein à une transition démocratique en Iran sont ces forces dites réformistes, pragmatiques, nationales, islamistes, etc. Et donc ça, c'est le deuxième élément, c'est l'absence, si vous voulez, de jusqu'à présent, les échecs qu'ont connus les forces libérales, les forces laïques iraniennes, à mettre en place une telle plateforme.
Oui. Alors, François Nicolau, tout à l'heure, Jean-François Bayer a évoqué cet aspect moderne ou la modernité. C'est un peu ce qui frappe quand même, parce qu'on a gardé une sorte d'image d'un Iran un peu archaïque avec ces mots-là. Et on se rend compte, je crois qu'il y a quelque chose comme 3 millions d'étudiants à l'université. On assiste à des exploits technologiques, justement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction entre ce régime qui est basé quand même sur un dogme, même si Jean-François Bayard a dit que c'est pas tout à fait ça, et ces aspects très modernes de la société iranienne. Qu'est-ce qui porte ça? Qui est porteur de cette modernité?
Un peu tout le monde, quand même, d'une certaine façon, mais je crois que ce contraste que vous décrivez, il tient en effet, c'est ce que disait Jean-François Bayard, à cette autonomie de la société par rapport à un régime politique. Il y a entre la société et le régime une sorte de jeu de gauche, à la fois d'évitement et d'encerclement. La société civile essaye d'élargir sa part d'autonomie, essaye de limiter le politique au sens strict du terme, et le politique, lui, essaye au contraire d'envahir tout le reste et effectivement de contrôler la société. Mais ce n'est pas un jeu violent, c'est un jeu discret, c'est un jeu en large partie souterrain.
Enfin, c'est pas violent, sauf pour ceux qui essaient de s'opposer d'une manière visible.
Alors oui, c'est vrai. Quand les gens attaquent le régime et d'une brutalité extrême pour les écraser, mais beaucoup de gens finalement arrivent à se tailler dans ce pays des petites parts de bonheur privé, de vie privée, disons en faisant pas de politique. En ne se mêlant pas de politique, en tous les cas, n'agissant pas de façon donc réellement agressive et active. Parce que pour la parole est relativement libre. Hein. Les gens s'expriment assez librement, critiquent assez librement le régime, le brocarde, les conversations dans les taxis collectifs, par exemple, font partie de ce genre de critique permanente. Les journaux, il y a quand même une marge de liberté dans les journaux. On n'est pas, je crois qu'il faut bien le dire, j'hésite un peu parce qu'on se fait un petit peu enfermer dans un rôle de défenseur du régime. Hein. Moi, je ne me sens pas du tout défenseur du régime, mais ce n'est pas un régime totalitaire, c'est autre chose. C'est pas un régime totalitaire. Le régime totalitaire contrôle les consciences, contrôle les vies privées. C'est l'Allemagne de l'Est. On demandait aux enfants de raconter ce que leurs parents avaient regardé à la télévision la veille pour savoir quelle télévision ils regardaient, si c'était la télévision de l'Ouest ou de l'Est. La sphère de la vie privée reste encore relativement protégée en Iran pour des tas de raisons, mais je ne veux pas trop m'étendre.
Donc pour vivre heureux, il ne faut pas s'occuper de la politique.
Un peu de ça.
Ramin Kamran, on a l'impression quand même qu'il y a eu des étapes au sein de ce régime, parce qu'on se souvient de la période de Rafsanjani, le pragmatique, celle de Khatami, le réformiste. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'on est revenu en arrière. Pendant cette période, à un moment donné,
parce qu'on n'avait pas bougé.
On a cru que le régime pouvait changer de l'intérieur, qu'on abandonnait petit à petit le côté religieux, le dogme, pour entrer dans une vie, justement, dans une politique pragmatique. Et là, du moins, à travers les discours, on a l'impression que le dogme a repris sa place.
Voilà, c'était une fausse perspective tracée par certains spécialistes. Je ne veux pas dire, on a même parlé de Thermidor en Iran, je pense.
Absolument. C'est celui-ci,
je l'ai écrit. Oui. L'autre aussi, vous l'avez écrit, vous aurez les photocopies, mon ami.
Je vous le donnerai avec
plaisir. S'il vous plaît.
Absolument.
S'il vous plaît.
Vous l'aurez. Jawan Mahdi. Et en ce qui concerne le régime universitaire, ça a été créé en 1933, pas par ce régime. Ce régime, en arrivant, on a vidé 3000 personnes, 3000 enseignants et chercheurs. Là, je dirais magnanimement parce qu'ils ne l'ont pas tué. Simple. Mais en ce qui concerne l'autonomie de la société envers l'État, ça c'est vrai, au fond. Pourquoi ? parce que cet État veut être un État totalitaire, mais n'est pas assez suffisamment puissant pour l'être. C'est la faiblesse de l'État qu'on vous a vendu depuis un certain temps. Un, pour le retour de la politique. Deux, pour la sécularisation. Trois, pour démocratisation. Quatre, pour la dynamique énorme de la société soutenue par le régime. Non, il n'y a pas de ça. Il y a une faiblesse, ça c'est vrai. Il y a un régime totalitaire en décomposition très avancée et qui ressemble à tout, mais qui sur le fond n'oublie pas sa vocation. C'est pour ça qu'il y revient à chaque fois.
Oui, mais ce régime n'est pas figé quand même.
Régime n'est figé. Aucun régime totalitaire n'était figé non plus. Regardez, les régimes totalitaires paraissent figés dans les récits qu'on en fait, mais dans la réalité, ils changent.
Oui, Jean-François Bayard.
Alors, moi, j'adore parler de ce que j'ai écrit. Donc, on va revenir sur Thermidor. Effectivement, j'ai parlé de Thermidor en Iran et dans une perspective comparative. Tout d'abord, il faut bien voir ce qu'était Thermidor à l'issue de la Révolution française. Ce n'est pas un régime spécialement sympathique. Ça n'était pas un régime particulièrement pacifique. Ça a même été un régime extrêmement aventuriste sur le plan des relations extérieures. Donc, il faut quand même bien comprendre ce que signifie Thermidor. Thermidor de la Révolution française, ça a été...
Rapidement, quand même.
Ça a été la professionnalisation en classe politique d'une élite révolutionnaire. Le terme de Thermidor est intéressant parce qu'il permet de bien comprendre qu'effectivement, cette classe politique issue d'une élite révolutionnaire et de la révolution de 1979 est très spinozienne. Elle veut persister dans son être et elle veut naturellement garder le pouvoir. Elle veut garder le contrôle des processus d'accumulation économique et elle est confrontée à un choc qui est un choc international, la globalisation, la nécessité d'ajuster son économie structurellement, parce qu'effectivement, cette économie n'est pas extraordinairement performante. Et de ce point de vue, l'élite révolutionnaire qui se transforme en classe politique professionnalisée est confrontée en Iran au même problème que la classe politique chinoise issue de la révolution communiste et du parti communiste. Donc ils doivent tout changer pour que rien ne change, selon la vieille formule que j'ai estropiée un petit peu au passage. Voilà le véritable ressort, et c'est un ressort thermidorien. Donc, du point de vue de l'analyse comparative, il faut comparer l'Iran, d'une part, à la Chine, et d'autre part à la Russie de Poutine. Ce ne sont pas des comparaisons forcément très sympathiques et je pense que mes interlocuteurs seront rassurés sur ce que je pense de la République islamique d'Iran.
Oui, et du point de vue du retour de la rhétorique théologique presque...
Alors, ça n'est pas le dogme, parce que quand le clergé de Rome entend M. Ahmadinejad disserter sur le Mahdi qui l'entoure aux Nations Unies, je ne suis pas certain qu'il soit très content. Ahmadinejad effectivement flatte cette fibre mystique, millénariste, en français, disons, un peu allumé. Mais les véritables théologiens blêmissent. Ça n'est pas du tout leur religion, leur conception de la religion. Donc, ça n'est absolument pas le retour du dogme.
Oui, Ramin Param.
Oui, encore une fois, il y a tellement de choses qui se disent qu'on ne sait plus par où prendre le discours. Mais je vais essayer quand même de... Vous avez parlé à très juste titre, monsieur l'ambassadeur, d'une certaine liberté d'expression. Les Iraniens eux-mêmes disent en Iran, et vous avez dit, là je ne suis pas d'accord avec vous, que ce régime n'est pas totalitaire. C'est juste une question de moyens, être totalitaire ou pas totalitaire. Et les Iraniens eux-mêmes disent en Iran, avec l'ironie qu'on leur connaît, le sens de la phrase, ici la liberté d'expression existe, c'est la liberté post-expression qui n'existe pas. Un régime qui prétend mettre en orbite des satellites. Un régime qui prétend...
Qu'il a fait, oui.
Selon les dernières analyses que j'ai lues, cela reste à être expertisé. Donc, moi, je ne suis pas expert en satellites, mais il faut... parce qu'on sait qu'il y a quelques mois, ils ont également prétendu avoir procédé à des tirs de missiles simultanés. On sait que c'était du trucage d'image. Mais vous savez, dans un pays où il y a... 35 à 40% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté absolue. Ça, vous le savez parfaitement parce que vous connaissez les statistiques iraniennes. Dans un régime où la sécurité nationale peut être mise en cause gravement au point où on procède à des arrestations par des blogueurs, par des gens qui tiennent des blogs. La sécurité internationale peut être... Dans un régime comme ça, prétendre maîtriser la technologie, il y a une certaine technologie basée sur ce qu'ils ont acheté à la Libye ou à la Corée du Nord. C'est de la technologie d'il y a 60 ans qu'ils sont en train de rafistoler. C'est dangereux, comme ils sont en train de rafistoler une technologie absolument dangereuse dans le sud de l'Iran. C'est la technologie nucléaire. Et voilà. Pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, M. Bayard, c'est vrai, il faut parler de l'être fondamental de ce régime, c'est-à-dire la nature de ce régime, sa raison d'être, son être fondamental. Et là, les choses changent beaucoup. Il ne s'agit pas d'un régime représentatif, ni basé sur une logique représentationnelle. Il s'agit d'un régime basé sur une logique référentielle. Cette logique référentielle est divine. C'est la constitution même. Je ne peux pas être, comme je l'ai dit tout à l'heure, plus chiite que l'imam. C'est la constitution même du régime.
Ce régime n'est pas une abstraction. Pour vous, aujourd'hui, qui détient le plus
Ali
de
Khamenei,
pouvoir
Ali Khamenei. Ce régime, ce que dit également, à très juste titre, quelqu'un qui était proche de Khomeini, qui était cofondateur du Corps des gardiens de la Révolution et qui est aujourd'hui à Washington, Mohsen Sasgara, il a dit, nous avons dans les cercles de sécurité, dans les cercles de renseignement, parce qu'il était partie prenante de ces cercles, au départ, on a étudié l'effondrement absolument époustouflant du régime du Shah. Et on s'est dit que la chose principale à faire, c'est de faire ce que lui n'a pas fait, c'est-à-dire de ne pas mettre en place un régime qui, dans sa réalité physique, n'est pas monolithique. Donc, dans sa réalité physique, ils ont procédé à mettre en place plusieurs centres, si vous voulez, d'intérêt, mais il y a un seul pôle de pouvoir. Et dans sa réalité physique, ils ont procédé à ce que le Shah n'a pas fait, n'a jamais voulu faire parce qu'il dédaignait complètement les intellectuels, à une corruption massive, je reviens là-dessus, des intellectuels et des élites. Il justifie en permanence le crime.
François Nicolau.
Non, enfin, moi, j'essaie d'entrer dans votre raisonnement de ce régime, au fond, qui est...
Oui, mais c'est de faire comprendre à ceux qui ne connaissent pas l'Iran, oui, mais... comment ça se joue entre le président, le guide qui a le plus de pouvoir, oui. Les gardiens de la révolution, l'armée.
Précisément, mais on va y venir. Mais au fond, votre idée, c'est que ce régime a envie d'être totalitaire, mais pour être totalement totalitaire, il y a quelque chose qui le bloque, c'est qu'il est faible, finalement. Alors, mais pourquoi est-il faible? Alors, pourquoi s'interdit-il de devenir fort? Alors,
il y a peut-être une explication. Un exemple, un seul exemple.
Il y a peut-être une explication quand même pour aller dans le
entre,
sens.
Entre 10 heures, un seul exemple. Entre 10 heures du soir et 2 heures, 3 heures du matin, il y a entre 20 millions et 30 millions de SMS qui s'échangent en Iran. Ces SMS, la plupart, le contenu essentiel de ces SMS, c'est un contenu politique à l'encontre contre le régime. Ce régime ne peut pas être aussi totalitaire que sa constitution le demande, que le traité fondamental de Khomeini, je reviens là-dessus, l'État islamique le demande, tout simplement parce qu'ils n'ont pas les moyens techniques de contrôler 30 millions de SMS tous les soirs. Ils ont les moyens techniques.
Il suffit de couper l'électricité, c'est pas compliqué.
Ils peuvent. Mais monsieur, vous coupez toute l'économie, alors.
Certains pays comme la Tunisie se sont donné les moyens de le faire. Oui,
peut-être une des expressions de la faiblesse du régime, en effet, c'est que de toute façon, divisé contre lui-même. Alors, il y a plusieurs analyses, effectivement. Une analyse qui fait d'Ali Khamenei, le guide de la révolution, le maître tout-puissant de l'État et du pays, et d'autres qui expliquent, au contraire, qu'il y a de très nombreux cercles de pouvoir qui jouent les uns contre les autres. À mon avis, la vérité est quelque part entre les deux. Khamenei dispose de tous les attributs de la puissance, mais de fait, il est quand même très attentif à réunir autour de lui le consensus des gens. Et ça m'a frappé dans certaines circonstances extrêmement précises. Il n'impose pas sa volonté contre la majorité des gens qui l'entourent, hein, oui. des centres de pouvoir qui l'entourent. En fait, son système, sa vision des choses, c'est « je suis leur chef, donc je les suis ». Enfin, c'est un peu ça. Et à partir de là, effectivement, entre en jeu de très nombreuses forces qui se partagent le pouvoir et se divisent. Et
comme
alors, on peut, les grands centres de pouvoir, on a d'abord, au-delà de la hiérarchie religieuse, il y a également les Pasdaran.
Les
gardiens de la révolution, donc cette armée d'élite qui est à la fois police et armée qui défend le régime. Il y a ensuite, enfin on peut aller à l'infini, enfin partout où on trouve que ce soit la police, l'armée, le parlement, enfin autant de forces qui jouent en permanence et qui donnent un jeu très complexe encore une fois. Enfin, on ne peut pas simplifier la photographie de ce régime. Il faut faire très très attention.
Oh, ramène quand
voilà,
même.
Regardez plusieurs points. D'abord, on dit que ce régime, une réaction est moderne, donc c'est pas théocratique, c'est pas... Non, c'est totalitaire, parce que le totalitarisme est un régime politique moderne. Ce n'est pas un régime politique traditionnel. Pourquoi ils n'ont pas réussi ? Voilà, deux raisons. Un, idéologie relativement faible par rapport au marxisme, par exemple. Deux, à mon avis, plus important que l'idéologie, bien que l'idée paraissait quelque peu iconoclaste, l'absence de parti unique. Regardez, ils ont créé un parti de la République islamique, ça a tenu 2 ans, et après l'explosion créée par les Mojahedines, où le grand chef, le grand cerveau de ce parti a perdu la vie, il n'y a eu personne pour prendre la relève, ayant suffisamment l'autorité et la connaissance de Beheshti. Voilà. Autre chose, en ce qui concerne les critiques que vous dites, oui, dans les taxis, à gauche, dans le sphère privée ou pseudo-privée, il y a des critiques. Il y en a toujours eu dans le régime, de toutes sortes.
Dans tous les régimes totalitaires.
Absolument, les gens se racontent des blagues, bravo, se racontent des blagues. Mais entre-temps, le pouvoir est ailleurs.
Je peux vous interrompre juste sur ce point. Ça m'avait frappé dans des mémoires de gens. À l'époque du chat, précisément, les gens avaient peur de parler, même dans la sphère privée. Ça, c'est quand même très, très frappant. Même dans des dîners en ville, on avait toujours crainte d'une oreille qui traînait.
Très relatif, très relatif, très relatif.
Je vous livre cette impression.
Une dernière chose, en ce qui concerne là, regardez, ce régime, on pourrait dire thermidorisé, dans le sens de devenir, disons, routinisation du côté bureaucratique. Dans ce cas, on pourrait dire très bien que, par exemple, après Staline, le régime soviétique, c'est thermidorisé. Mais ce que les gens entendent en général, et c'est ça qui fait choisir les titres avec beaucoup de discernement, c'est que quand c'est thermidor, c'est que la terreur est finie. Eh bien, la terreur n'est pas finie. Point.
Jean-François Bayard, moi j'aimerais encore que vous reviennes un peu sur ces différents pôles de pouvoir. Par exemple, on lit ici et là que ces gardiens de la Révolution commencent à prendre une importance considérable dans l'exercice du pouvoir, quelque chose qui pourrait ressembler un peu à l'armée pakistanaise avec leur présence massive dans l'économie, c'est le cas ?
Alors, en fait, le grand problème de ce régime, ça n'est pas la concentration de pouvoir, c'est la dispersion du pouvoir. Et pour nous en tenir dans un premier temps à la sphère institutionnelle, il y a effectivement ce jeu d'équilibre extrêmement complexe entre le président de la République, qui n'a absolument pas les pouvoirs d'un président de la République français, hein, il faut bien comprendre ça, c'est plutôt un premier ministre, ou le guide de la Révolution, qui est plutôt le primus inter pares, et qui en quelque sorte essaye de faire la synthèse de toutes les forces qui s'affrontent au sein des institutions. Vous avez le Parlement qui a le pouvoir et qui s'en est servi aussi bien sous Ahmadinejad que sous Ratami, par exemple, et sous Rafsanjani, de démettre, qui a donc le pouvoir de démettre des ministres du président de la République. Vous avez l'institution judiciaire, dont on dit qu'elle est soumise au guide, mais à plusieurs reprises, on a vu que ça n'était pas aussi simple que cela. Vous avez toute une série
l'armée
de...
L'armée aussi, dont on dit qu'elle dépend du guide.
On reviendra sur la sécurité dans un moment, mais vous avez l'Assemblée des experts, vous avez le Conseil des gardiens de la Constitution, vous avez le Conseil du discernement, qui sont des espèces de chambres d'arbitrage et de régulation du régime. Donc vous avez une espèce d'équilibre homéostatique qui fait que ce système est absolument incapable de prendre des décisions, par exemple dans le domaine de la réforme économique, parce qu'évidemment réformer l'économie, ça crée des frustrations, y compris dans sa propre base politique. C'est prendre des décisions courageuses et il y a toujours moyen de bloquer quelque chose. Et en revanche, vous avez un véritable consensus sur certains fondamentaux. Naturellement, la reproduction du régime, la reproduction de l'accès à l'accumulation économique qu'il permet, et également la défense de la souveraineté nationale. Donc vous avez une espèce de consensus autour duquel ces différentes forces qui sont engagées dans des batailles factionnelles extrêmement dures, qui les règlent parfois à coups de fusils à tirer dans les coins et par assassinat politique, mais lorsque les choses deviennent sérieuses, ils font bloc et à travers ces instances d'arbitrage, ils arrivent à des décisions de compromis. Bon. Les Pasdaran, les gardiens de la Révolution, font partie de ce système. Je crois qu'aujourd'hui, il y a toute une explication qui explique qu'Ahmadinejad est le produit, le fondé de pouvoir en quelque sorte des Pasdaran. Moi, je pense que les choses sont beaucoup plus compliquées que cela. Et Madeleine, vous avez raison, je crois que les Pasdaran, il faut un petit peu les comparer peut-être à l'armée pakistanaise, mais aussi bien à l'armée turque ou à l'armée israélienne. C'est-à-dire que nous sommes, ou à l'armée thaïlandaise, c'est-à-dire que nous sommes dans un système où l'armée est certes à des prérogatives militaires, des compétences militaires, où elle a des préoccupations et où elle est partie prenante commande du jeu politique. Elle a donc des intérêts politiques à défendre et elle participe à la prise de décision, mais où elle a également des intérêts économiques à proprement parler. Et de fait, les passes d'Arran couvrent maintenant des entreprises qui sont des entreprises d'ingénierie, des entreprises d'exploration pétrolière, etc., mais qui elles-mêmes ont tendance à s'autonomiser et à jouer un jeu économique. C'est quelque chose d'ailleurs que l'on retrouve en Chine, avec les grandes entreprises chinoises qui sont des produits du régime et qui néanmoins sont de plus en plus autonomes, obéissant à des stratégies d'entreprise qui ne se réduisent pas au jeu du Parti communiste chinois. Bon, on a la même ambivalence, me semble-t-il, en Iran.
Et puis il y a les fondations, si on n'a pas parlé des fondations.
Alors, j'aimerais qu'on parle aussi des gens, des citoyens. Aujourd'hui, on a par exemple toute une génération qui a 30 ans, c'est-à-dire qui est née avec la révolution. Oui. On se dit que dans toutes ces institutions, que ce soit le Parlement, les passes d'Arran, enfin, tous ces différents pôles de pouvoir sont investis par une génération qui a à peine connu la révolution.
Exactement.
Est-ce qu'ils changent quelque chose? Est-ce qu'ils impulsent un changement? Ou est-ce qu'ils sont susceptibles d'impulser un changement?
Oui, absolument. C'est là, c'est la base même, le substrat, si vous voulez, de l'espoir de changement en Iran, le substrat démographique et social, et pour deux, trois raisons. D'abord parce que contrairement à l'époque Khomeini et contrairement à l'époque de la révolution 598, la coupe de Ségur, aujourd'hui, il n'y a plus de Khomeini. Il n'y a plus ce grand Léviathan islamiste qui a réussi par son verbe de réunir tout le monde. Khamenei est effectivement, juridiquement et physiquement, si vous voulez, ce grand Léviathan, ce grand nain. Mais il y a des centres d'intérêt à l'intérieur du régime, ce qui ne veut pas dire que ce régime soit un système ouvert ou démocratique. D'autres points de différence par rapport à l'époque et ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire l'arrivée massive de cette nouvelle génération, c'est que contrairement à l'époque de la Révolution et il y a quelques années encore, ce régime est arrivé à un épuisement idéologique et discursif. C'est-à-dire, l'un des éléments fondamentaux discursifs de ce régime était ce que l'écrivain iranien des années 60, Al-Ahmad, inspiré par un philosophe d'ailleurs assez proche de la cour, puis de la maison de l'imam, Fardid, appelait l'occidentalite. C'est-à-dire, l'Occident est un agent pathogène qui va induire une réaction infectieuse chez vous. Et cet occidentalite est devenu l'islamite. Cet islamite, cet islam politique en Iran est devenu un antigène qui produit ce qui induit la production massive de l'anticorps. Cet anticorps massif, c'est la nouvelle génération qui n'en veut plus de cet islam, qui n'en veut plus de l'islam politique. Et il n'est pas, cette génération n'est pas seule. Il y a aujourd'hui dans les cellules...
On doit trouver aussi dans la sphère religieuse des religieux également, qui ne veulent pas se mêler de la politique. Oui.
Ayatollah Bourujerdi, de la même famille que le grand Ayatollah quiétiste traditionnaliste Bourujerdi qui s'est éteint au début des années 60, et c'était après sa mort où le bas clergé Khomeini, Rafsanjani, Khamenei, clergé largement inculte par rapport à cet haut clergé, est très politique et très affairiste. Et n'oubliez pas que M. Rafsanjani a fait la couverture du magazine Forbes. Je ne connais pas beaucoup d'hommes spirituels qui ont réussi cet exploit quand même. C'est après la mort de Bourujerdi que ce bas clergé vient à la surface. Également les erreurs incompréhensibles et inadmissibles du chat. Mais aujourd'hui, la chose est différente. Il y a cet épuisement discursif et idéologique. Il va être très difficile à n'importe quel président de la République, le 10e au mois de juin, de vendre une deuxième coupe de Ségur à la société iranienne, voire à la base idéologique du régime, et de continuer à vendre ce produit invendable qui est l'islam politique en Iran.
Alors, qu'est-ce qui est à vendre, justement? Parce que là, on
la laïcité, que... la laïcité, la liberté, madame. La liberté. J'ai des droits. Je ne suis pas ici un sujet de l'imam et de l'imamat.
Parce que, encore une fois, moi, j'ai lu que... Ce que les Iraniens demandent, ce n'est pas vraiment la laïcité. C'est le changement, mais qui s'appuie sur cet islam politique dans lequel ils ont évolué depuis 30 ans.
Non, personne ne peut affirmer ça, madame. On peut prétendre connaître les aspirations. Je prétends connaître les aspirations, non, mais la société iranienne n'étant pas libre, il n'y a pas d'institution de sondage libre. Personne ne peut prétendre affirmer que les Iraniens veulent ci ou veulent ça. J'ai dit l'antidote à l'islamite, l'antidote le plus naturel, l'antidote dont le moment historique est venu, l'idée dont le moment historique est venu, c'est ce libéralisme laïque qui fait la séparation entre la religion, la chose religieuse et la chose politique.
Alors, on commence à voir quelques aspects. Il y a, par exemple, des associations de femmes qui sont d'obédience laïque.
Absolument. Oui. Il y a non seulement des associations de femmes, ils avaient des économistes, de brillants économistes iraniens, dont je ne veux pas citer le nom parce que ça peut leur créer des problèmes, qui se disent ouvertement libérales. Il y a une association des étudiants libéraux iraniens à l'Université de Téhéran qui s'exprime sur Internet. Le libéralisme est en train de faire son chemin en Iran parce que son moment historique est venu.
Oui, mais est-ce que c'est vrai? On peut créer une révolution, il faut dire les choses clairement. Est-ce que
oui, mais
tout ceci peut provoquer
qu'une révolution? La situation,
un changement brusque de ce régime peut tomber brusquement, leur fameux regime change que souhaitent les Américains. Est-ce qu'il peut intervenir du jour au lendemain?
Écoutez, personne ne peut dire, la révolution n'est pas une science exacte. Personne ne peut dire à quel moment, sous quelle forme une révolution va venir. Personne ne prédisait l'effondrement de l'Union soviétique. Personne ne prédisait l'effondrement de l'îlot de stabilité du Moyen-Orient qui était le Shah. Donc, mais les conditions sont là. L'épuisement idéologique, la fin de l'ère de la morphine économique pétrolière et l'arrivée massive de la nouvelle génération.
Alors, on n'a pas le temps d'aborder les questions géopolitiques. On va rester sur la politique intérieure. Jean-François Bayard, on va bientôt terminer l'émission. Quels vont être les effets de la situation économique, à la fois la chute des prix du pétrole, des sanctions sur l'élection qui se prépare au mois de juin et qui va être déterminante quand même dans l'évolution du régime?
La critique de l'affairisme et d'une certaine conception du libéralisme en 2005 a été une des grandes raisons de la victoire de d'Ahmadinejad, puisque Ahmadinejad avait un discours très démagogue en disant « je vais apporter l'argent du pétrole sur la nappe des Iraniens ». Et il faut reconnaître d'ailleurs que Ahmadinejad a été assez cohérent avec lui-même parce qu'il distribue force crédit, force argent avec des mises en scène extrêmement populistes, ça n'est pas pour rien que son grand allié sur la scène internationale et Chavez. On est tout à fait dans le même style politique. D'une certaine manière, Ahmadinejad, grande interrogation, est-ce qu'il a réussi ou non, mais il s'est certainement constitué une clientèle par le biais de ses largesses, de ses libéralités. D'un autre côté...
En tout cas, il se représente.
Non. Ratami a déjà posé sa candidature. Depuis deux jours, semble-t-il. Mais de toute façon, là, on est vraiment dans la guerre de bijoutiers. Je crois qu'il faut rester serein par rapport à elle. Mais la grande inconnue, effectivement, c'est de savoir si la crise économique a introduit un divorce entre Ahmadinejad et l'opinion ou non. Et nous sommes dans une situation extrêmement fluide parce que, par exemple, il y a aujourd'hui une crise immobilière, après une bulle immobilière, il y a une crise immobilière en Iran. Il est extrêmement difficile de savoir les conclusions que vont en tirer les électeurs iraniens. Certains vont s'en féliciter puisque les loyers chutent. D'autres, naturellement, sont extrêmement déçus parce qu'ils voient leur capital également s'effondrer. Donc je crois que, en tout cas, cette dimension économique, elle sera certainement importante dans la prise de décision des électeurs au mois de juin.
D'abord, quand on parle élection en Iran, il faut savoir qu'on parle de quelque chose au figuré. Élection, ça ne veut rien dire dans ces cas. Si ce n'est la mascarade électorale qui est mise en valeur par certains spécialistes, je le reconnais, ça leur plaît, c'est leur choix, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais, pour revenir à une chose, la laïcité et le libéralisme, oui, effectivement, ils ont été les valeurs qui ont été fondées en Iran lors de la révolution libérale de 1906. En 1979, beaucoup de gens revenir.
Aujourd'hui, puisqu'on doit terminer l'émission, est-ce que justement vous voyez des prémices, des frémissements de ce retour au libéralisme et à la laïcité?
Absolument, de manière très nette, et je vous cite un seul exemple, le fait que les mollahs, les prétendus intellectuels islamistes, imitent le libéralisme. C'est ça, l'hommage qu'ils rendent au libéralisme, à l'héritage de Mossadegh, à l'héritage de Bakhtiar, naturellement.
Donc le régime va récupérer cela, au fond, dans votre vision.
Le libéralisme, oui, mais la laïcité, il ne pourra pas et il en mourra.
Mais la laïcité ne peut pas, ce n'est plus le même régime.
Non, absolument, ouais. C'est ça l'intérêt.
Juste rappeler que ces élections qui ne sont pas démocratiques sont quand même des élections à surprise. En 1997, Ratami n'était pas le candidat du guide, et en 2005, Ahmadinejad n'était pas le candidat de l'establishment, c'était Larry Jani.
La vie est pleine de surprises.
Pas des élections si contrôlées que cela.
Merci.
Même si elles ne sont pas démocratiques.
Merci à tous les quatre.
De toute façon, pas contrôlées par les gens.
On va se retrouver au mois de juin pour en parler.
Excellent.
Merci Madame Juste.
juste un mot pour vous dire que demain, France Culture continuera de marquer le 30e anniversaire de la révolution islamique en Iran avec une journée spéciale. Journée spéciale qui commence à 7h15 avec les enjeux internationaux. Thierry Garcin évoquera l'économie iranienne. Journée spéciale qui continue ensuite dans les matins de France Culture, puisqu'à 7h40 et jusqu'à 9h, Ali Badou recevra Thierry Coville, qui est économiste, et Fariba Adelka, qui est anthropologue. Et puis de 9h à 10h, Emmanuel Laurentin proposera la rediffusion d'un documentaire réalisé en 1997 qui s'intitulait 1978-1979, un destin pour Khomeini. Et enfin, les questions d'époque ne seront pas en reste, puisque dans Place de la Toile, avec Thomas Baumgartner, nous reviendrons sur la place de l'Internet en Iran. France Culture, question d'époque, la Société des Nations. C'est l'heure de retrouver la chronique de Philippe Thureau d'Angin. Bonjour Philippe.
Bonjour Caroline.
Alors on passe de l'Iran à Israël.
Oui, on s'éloigne pas trop, puisque mardi prochain, effectivement, le 10 février, Israël vote, en fait. Ce sera un scrutin d'après-guerre, pourrait-on dire, à chaud. Un vote de la peur, d'ailleurs, dit le journal Maariv, sur place. Et en tout cas, un vote important pour l'avenir de la région, et notamment pour les relations avec l'Iran. Il y a, en effet, l'opération de Gaza vient de se terminer, et le bilan de plomb durci est assez catastrophique. Les Israéliens ont soutenu et continuent de soutenir cette expédition contre le Hamas, mais ils savent que ce n'est pas du tout une victoire. Ils vont sans doute donc punir par leur vote les principaux artisans de cette guerre inutile, notamment le Parti travailliste, emmené par le ministre de la Défense actuel, Ehud Barak, et surtout Kadima, le parti qui est au pouvoir depuis 2006. Et cette formation centriste, vous savez, on peut le rappeler, avait été créée fin 2005 par Ariel Sharon, avec une partie des troupes du Likoud et quelques transfuges du Parti travailliste. L'année suivante, lors des élections, Kadima avait eu 28 sièges à la Knesset et il est crédité aujourd'hui de bien moins dans les sondages. En fait, c'est la droite et l'extrême droite qui mènent la course en tête cette année. D'abord le Likoud de Benjamin Netanyahou et celui qui fut le grand rival de Sharon, et aussi le parti russophone Israël Beiteinu qui est dirigé par Avigdor Lieberman. Alors en fait, tous les partis jouent la carte de la sécurité maximum, ne veut rien céder sur Jérusalem, ne veut rien céder non plus sur l'Iran et envisage toujours un renversement du Hamas à Gaza. En fait, Lieberman ajoute à ce programme quelques flèches contre la minorité des Arabes israéliens et leur demande de signer un certificat de loyauté à l'égard d'Israël. En fait, la politique israélienne, du fait du scrutin proportionnel, est un jeu assez ouvert et on peut voir toutes les alliances possibles à l'issue de ces élections. Ehud Barak, par exemple, a dit tout à fait récemment, hier, qu'il acceptait de siéger au même gouvernement que Lieberman. Et ce même Lieberman, en fait, est courtisé actuellement par le Likoud et par Kadima aussi. En fait, dans une assez grande indifférence, on assiste à une bagarre pour savoir qui va diriger en fait, la droite israélienne dans les prochaines années, soit le Netanyahou, soit effectivement Kadima. Alors, on va abandonner l'arithmétique pour passer à la politique avec trois constats rapides. Premier constat, Israël manque en fait d'un chef charismatique comme a pu l'être Begin ou Rabin pour imposer effectivement une politique et éventuellement des sacrifices ou des concessions dans un processus de paix. Deuxième constat, Netanyahou est sans doute l'homme politique israélien qui s'entend le plus mal avec les démocrates américains. Et donc ça préjuge assez mal des résultats de l'émissaire américain George Mitchell. Et troisième constat, en fait, on assiste à une radicalisation de la société israélienne et surtout à son émiettement confessionnel et ethnique. Et donc, sur ce point-là, Israël, en fait, s'éloigne finalement du camp occidental et, me semble-t-il, se rapproche des paysages politiques que l'on connaît en Orient, notamment en Irak et au Liban.
Philippe Thureau d'Angin, merci. À la semaine prochaine. Un grand merci à toute l'équipe des questions d'époque, Inès De Bruyne, Doria Zénine, à la technique ce matin, Yanis Djouhad. Et rendez-vous donc demain à 11h avec Thomas Baumgartner pour Place de la Toile où nous parlerons, comme je le disais à l'instant, de la place d'Internet en Iran. Vous écoutez France Culture tout de suite à midi, les titres du journal et tout arrive.